Voilà, donc c'est ma visite annuelle, apparemment. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'on est sur un projet de déménagement avec mon épouse, parce que nos enfants sont dans la région de Toulouse et Albi. Et donc, on aimerait bien descendre un peu plus bas pour les retrouver. Et donc, j'ai dit à Gilles que, ben oui, tant qu'on est à Paris, on peut venir, c'est pas très compliqué. Bon, pour venir de Toulouse, c'est un peu plus délicat. Mais on ne sait jamais. En tous les cas, le projet est là, mais l'homme fait des projets et le plan de Dieu s'accomplit. Donc, on va voir. Alors, mon sujet ce matin, c'est donc l'un des derniers, le dernier signe de l'évangile de Jean, celui que vous avez déjà vu, déjà d'après ce que Gilles m'a dit, au mois de mars. Mais je pense que c'est tellement important que ça vaut la peine de revenir dessus. Et donc, c'est dans le chapitre 11 de cet évangile que je vais demander donc à Rav de lire. Ah voilà, c'est là. Donc, il est là. Si tu veux bien le lire, Rav, jusqu'au verset donc 45 inclus. Hein? Jean 11, 1 à 45. Oh, c'est mieux, oui. C'est mieux si tu viens là.
Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi. » Mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. » Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et te demande ». À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant « Elle va au tombeau pour y pleurer ». Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort ». En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait !» Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui.
Merci. Merci bien. Elle est connue, cette histoire. Elle est bien sûr marquante parce que c'est un point décisif dans l'histoire et dans le cheminement que Jésus a vécu au travers de ses 3 ans de ministère public. C'est intéressant de savoir qu'il n'y a que Jean qui raconte cette histoire, et on s'est posé la question, pourquoi les 3 autres évangélistes n'en parlent pas? Mais je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne suis pas sûr que c'est très important. Moi, ce que j'ai noté en relisant ce texte cette semaine et en regardant à nouveau ce texte que je connais, hein, que nous connaissons tous, c'est que cette phrase du chapitre, du verset 4, pardon, quand Jésus reçoit le SMS, donc, qui est envoyé par ses amis, Marthe et Marie, en disant, voilà, il faut venir, c'est une urgence. Les deux femmes, Marthe et Marie, sont en détresse face à la mort imminente, ou à la maladie plutôt de leur frère. Et Jésus répond cette phrase au verset 4, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié pour elle. » Je vois dans cette phrase une indication du combat que Jésus mène contre un ennemi. On connaît l'ennemi, qu'on appellera Satan ou le diable, mais là, l'ennemi, c'est la mort. Et là, Jésus dit, comme quelqu'un qui dira, celui-là, la mort ne va pas le gagner. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et je vois comme un défi que Jésus lui-même se fixe en disant non. C'est vrai que j'aime Lazare, c'est vrai que c'est un ami, c'est vrai que je veux aussi... Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles je ne veux pas que Lazare meure, mais c'est « je veux pas que la mort gagne, au moins cette fois-ci ». C'est un combat dans lequel Jésus est engagé ici, et d'ailleurs on le verra à travers l'histoire, à travers le récit, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué plus que, enfin je ne l'avais pas remarqué à travers cette première phrase qui répond à la nouvelle que Jésus reçoit. Hein, il est question de trois fois, il est dit le malade est là et celui que tu aimes est malade. Mais non, ce malade-là, ce n'est pas pour la mort, mais ça va être un moyen de glorifier Dieu. Ça, c'est vraiment le résumé de ce que nous avons lu à travers le texte ici. Alors bien sûr, Jean a un projet à travers ce récit. Il veut nous aider à croire encore toujours davantage. On sait que son évangile a été écrit pour que nous croyions. Hein, il le dit au chapitre 20 de son évangile. Jésus a accompli encore beaucoup d'autres miracles en présence de ses disciples. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout l'objectif de Jean, à travers les 21 chapitres de son évangile, c'est que nous puissions croire. Et mieux croire, toujours plus croire. Et le mot « croire », dans ce texte revient 8 fois. Et donc, il y a un projet, non seulement de raconter, bien sûr, un miracle merveilleux qui est là devant nos yeux, mais une pédagogie de Jésus de nous montrer en qui nous croyons. Finalement, j'ai intitulé ce message « En qui croyons-nous vraiment ?» En qui croyons-nous vraiment? Et il s'adresse à trois publics différents, si on peut le dire comme ça. D'abord, ses disciples. Ça, c'est eux qu'il veut former, qu'il veut édifier dans la foi, pas être à nouveau un fondement, comme on l'a dit tout à l'heure, être celui qui est le fondement des siècles pour les disciples, mais aussi ensuite, pour Marthe et Marie, qu'il veut que la foi de Marthe et Marie soit fondée, soit enrichie. Et enfin, bien sûr, les Juifs qui sont là, spectateurs, et qui sont venus pour entourer leurs amis qui sont dans le deuil et qui vont aussi apprendre à croire, ou à mieux croire, à être touché par la personne de Jésus. Voilà, l'objectif de Jésus, c'est, à travers ce miracle, c'est vraiment de glorifier Dieu, comme il le dit, d'empêcher la mort de saisir cet homme et de se révéler encore mieux à chacun de ces personnes qui sont en face de lui et bien sûr pour nous, à chacun de nous. Ce matin. Alors les disciples, ils reçoivent la nouvelle, parce que Jésus, il n'avait pas son portable personnel, hein. Donc certainement qu'ils ont dû apprendre la nouvelle avec Jésus, que voilà, Lazare était très mal en point et qu'il fallait intervenir. Mais Jésus leur dit, ne vous inquiétez pas, cette maladie n'est pas pour la mort. Mais au verset 5, on lit que Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Et face à cette situation, il décide néanmoins de rester encore 2 jours sur place. Donc il est de l'autre côté du Jourdain, à une dizaine d'heures de marche de là où Béthanie, là où vivait Lazare. Et bien sûr, il ne veut pas retourner de l'autre côté du Jourdain, en Judée, parce qu'il est l'objet de persécution, et il y a des gens qui veulent le lapider. Et donc les disciples comprennent bien que là, il y a un problème. D'un côté, on a besoin de lui, et de l'autre, ils savent que s'il y retourne, ça va être difficile d'affronter la persécution. Et il risque même sa vie. Là, c'est du sérieux. Parce que jusqu'à présent, la vie de Jésus n'avait pas été menacée aussi brutalement. Mais là, apparemment, d'ailleurs, quand on lit les passages précédents, on voit que la tension est montée avec les autorités et qu'ils le menacent directement. Donc, les disciples comprennent que Jésus, finalement, est coincé. Malgré son affection pour Marthe et Marie, malgré son affection pour Lazare, il reste là. Mais finalement, il leur dit, à un moment donné, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. Et il dit cette phrase un peu énigmatique, qu'il dit au verset 9, « N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour? Si quelqu'un marche pendant le jour et ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Quand il annonce son retour en Judée, bien sûr, les disciples sont inquiets. Mais là, Jésus affirme que il y a un temps pour tout. La lumière est encore pour lui possible. Le jour, sa vie, ses 3 ans de ministère ne sont pas encore à leur terme. Et c'est le moment pour lui d'agir. Même si la tension est vive, même s'il y a un moment où il risque peut-être d'être persécuté directement, il dit non, j'y vais. Parce que la lumière est là. Parce que mon heure n'est pas encore venue, comme il le dit dans d'autres passages de l'Évangile. Donc, pour lui, la confiance que son Père lui donne, cette ouverture, reste le meilleur moyen d'avancer, en dépit de l'opposition. Quand on marche dans la volonté de Dieu, on peut avoir cette conviction que finalement, peu importe les circonstances, moi, j'avance. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire. Et ça peut nous conduire parfois dans des situations un peu compliquées, mais c'est comme ça qu'on peut avancer dans des situations qui ne sont pas très simples. Jésus décide de rentrer et de partir en Judée. Et là, il fait une annonce à ses disciples, en disant, Lazare, notre ami, celui que j'aime, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Alors, bien sûr, les disciples, ils sont un petit peu confus, ils comprennent pas très bien. Et il dit, s'il dort, c'est que ça va, quoi. Enfin, au moins, il est pas tordu de douleur. Mais ensuite, on voit que Jésus est en train de révéler peu à peu la situation à ses disciples, un peu comme avec des enfants. Il veut les mener à travers ce récit à la confrontation. Puisque quand les disciples disent ça va, s'il dort, c'est tout bon. Et non, il dit, Jésus avait parlé de sa mort. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et là, on a la première clé de la révélation pour les disciples. Lazare est mort, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez, vous, les 12. Afin que vous puissiez voir qui je suis. Voilà la raison pour laquelle Jésus a attendu. Voilà la raison pour laquelle il les prévient que ce qui va se passer dans les quelques jours qui arrivent là, dans les quelques temps qui arrivent, va être un moyen pour eux de mieux croire, de mieux lui faire confiance, de pouvoir avancer dans la confiance avec Jésus. Ça, c'est le premier objectif de Jésus. Montrer qui il est. Et il est tellement important pour les disciples de croire en Jésus. Pour nous aujourd'hui, combien il est important pour nous de savoir que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la résurrection et la vie, comme il le dira dans le texte, dans la suite du texte. Jésus est sensible à la foi en lui. D'ailleurs, quand il est allé à Nazareth, je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'a rien pu faire, ou très peu de miracles, parce que les gens ne croyaient pas en lui. Le manque de foi est un obstacle pour l'action de Jésus. Il n'y a pas grand-chose qui bloque l'œuvre de Jésus, mais l'incrédulité, c'est ça qui bloque. Et donc, son objectif, c'est d'amplifier, de donner davantage de volume, si on peut dire, de confiance à ses disciples. Et c'est pourquoi il insiste en disant « Afin que vous croyiez, je veux que vous croyiez davantage. » Quand Jésus parle de ses disciples, à un moment donné, dans le chapitre 18 de Matthieu, il dit que celui qui est une occasion de scandale pour celui qui croit en moi, il le jettera dans la mer avec une meule de moulin. Scandaliser un croyant, c'est une occasion de perdition. Tellement la foi a de la valeur pour Jésus. Et c'est pourquoi il est important de cultiver cette foi, de la pratiquer, de la développer. Jésus n'a cessé de dire dans sa vie, dans ses 3 ans de ministère, à ceux qu'il a rencontrés, « Ta foi t'a sauvé. » Que ce soit des malades, que ce soit des personnes qui venaient les aider, demander de l'aide pour leurs enfants, « Ta foi t'a sauvé. » La foi, c'est vraiment le cœur de notre marche avec Jésus. Et pour les disciples, même pour les disciples qui avaient passé 3 ans avec lui, il fallait qu'ils continuent d'apprendre à marcher et à croire. Alors ensuite, Jésus arrive plus près du village et il rencontre Marthe et Marie. Alors là, la teneur du dialogue est bien différente de celui que Jésus a mené avec ses disciples. Il a affaire à des femmes qu'il aime, qu'il connaît, mais qui sont blessées. Blessées, meurtries par la douleur. Et qui ont comme un regret fort. Presque, ils expriment à Jésus quelque chose qui va presque au reproche. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si seulement tu étais venu un peu plus tôt, on a ce regret tellement fort qui est exprimé à la fois par Marthe au verset 21 et par Marie au verset 32. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La blessure est telle qu'on pourrait, oui, qu'on voit comme un petit reproche dans cette parole qui accueille Jésus au milieu de la détresse de ces femmes. C'est vrai que on a parfois tendance, quand on est dans l'épreuve, à accuser Dieu. Et c'est presque humain. Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi je suis malade? Pourquoi mon fils a loupé ses examens ou a fait toutes sortes de difficultés, a vécu toutes sortes de problèmes? Pourquoi? Je pense qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'on a le droit de poser des questions à Dieu. Job, si le livre de Job est dans l'Écriture, c'est pour cette raison-là. Je vois dans le livre de Job comme un homme qui pose à Dieu les vraies questions. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi est-ce que j'ai cette épreuve que tu m'as enlevé tous mes enfants? Ce sont des questions légitimes. On n'est pas les premiers à demander à Dieu les raisons des épreuves que nous traversons. Et je pense que nous avons cette liberté, même si, bien sûr, les réponses n'arrivent pas toujours comme on l'entend. Et dans le dialogue entre Marthe et Jésus, on voit que Jésus veut amener tout doucement son interlocutrice, Marthe, a avancé justement dans la confiance, dans la foi. Elle pense, quand Jésus lui dit, mais oui, mais il va ressusciter. Alors, enfin non, pardon, c'est pas elle qui dit, c'est pas Jésus qui dit ça. Je sais que Marthe lui dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Elle voit en Jésus un intercesseur. C'est déjà pas mal. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Verset 22. Et Jésus lui dit, mais ton frère ressuscitera. Et là, elle embraye au verset 24 en disant, mais oui, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Et là, Jésus l'emmène un pas plus loin. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Grande question à Marthe. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt? Là, c'est la fin l'examen final du catéchisme de Marthe. Voilà. Vous savez, quand moi j'étais catholique, comme certains d'entre vous, alors avant de passer à la communion, quand on a la grande communion, on fait du catéchisme, puis on a un examen, et puis si on répond bien aux examens, eh ben voilà, on peut passer la communion et avoir sa montre. C'est important la montre. Parce que c'est des belles montres. Voilà, ça c'est le catéchisme. Jésus est en train de poser la question à Marthe, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Et que celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et vous remarquez que Marthe ne répond pas vraiment à la question. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Elle donne une bonne réponse, mais elle ne répond pas à la question que Jésus lui pose. Parce que c'est trop dur. C'est un pas trop haut pour elle, pour saisir la marche. Alors, elle donne la bonne réponse, selon certainement, si on peut le dire, le catéchisme qu'elle avait appris, ou qu'elle savait parce qu'elle connaissait Jésus, elle l'avait reçu, elle l'avait déjà écouté, mais elle a du mal à croire que celui qui sera mort peut encore vivre maintenant. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Il y a là comme une... Jésus invite Marthe à aller un pas plus loin. Et ensuite, au verset 28, on voit que Jésus va rencontrer Marie et il lui pose, on a exactement la même réponse, enfin la même question que Marie pose à Jésus, en tous les cas, le constat, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Jésus la voit pleurer. Jésus ne veut pas que nous croyions à une doctrine. Jésus veut que nous croyions en lui. Ça, c'est important. C'est ce que je ressors de ce texte. Jésus ne veut pas que nous croyions à une doctrine. C'est bien de croire à une doctrine, mais ce que Jésus veut, c'est que nous croyions en lui. Et c'est pourquoi il emmène Marthe et Marie vers ce chemin de croire en lui. Marie se jette aux pieds de Jésus. Comme on le sait, elle était peut-être un peu plus mystique que sa sœur Marthe, qui était plus affairée à la cuisine. Mais sa douleur est la même. Sa douleur est la même. Elle vit cette souffrance de la séparation et de la mort de son frère. Jésus ensuite rencontre les Juifs. À partir, disons, du verset 35, ou 34, lorsque Jésus pose cette question, où finalement, dans ce conflit qui l'oppose à la mort, qu'il a annoncé au début, on voit que Jésus s'approche de l'objectif. Il a rencontré, il a parlé avec ses disciples, il a parlé avec Marthe et Marie, et maintenant, où est-ce qu'il est, cet ennemi que je veux vaincre? Il rentre dans l'arène. Il rentre dans la phase d'action. Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et là, Jésus pleura. Avant de poser cette question, on voit que Jésus vit qu'elle pleure, quand il voit que Marie pleurait. Il est dit que Jésus frémit en son esprit et fut troublé. La douleur de ses amis le touche, parce que Jésus est un homme qui est touché, affecté par la douleur de ses amis. Et là, avant le miracle qu'il est en passe d'accomplir, il montre son humanité. Sa profonde humanité. Il ne peut pas rester insensible aux effets de la mort. Son ennemi, c'est la mort. Et son ennemi fait du mal parce qu'il sépare, parce qu'il rompt la relation, parce qu'il casse quelque chose qui est beau, qui touche à l'amour. Mais face à cette œuvre de la mort, il ne reste pas insensible. Il est là en disant « Je... » Il ne sait pas qu'il ne dit, il ne dit rien, il pleure. Il pleure devant les effets de la mort. Il frémit en son esprit et il est troublé. Il y a quelque chose qui le touche profondément. Et là, je vois là vraiment un exemple, plutôt une démonstration de cette double nature que Jésus connaît. Il est à la fois Dieu et homme, pleinement homme. et ce fameux verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Et les Juifs qui sont là, qui disent, voyez comme il l'aimait. Jésus aimait les gens avec lesquels il était en relation. Et il aimait Lazare. Et bien sûr, il ne pleure pas forcément le décès de Lazare, parce qu'il sait qu'il va le ressusciter dans quelques instants, mais il pleure les effets de la mort de Lazare sur ceux qui le connaissent. Et combien l'œuvre de la mort est néfaste et méchant par lui-même. Voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne meure pas ?» Voilà, on trouve toujours de quoi critiquer. L'incrédulité est tapie au fond de nos cœurs pour trouver des moyens de dire que finalement, Dieu n'est pas Dieu, que Jésus n'est pas celui qu'il dit qu'il est. Et au verset 38, on a cette nouvelle manifestation de la colère de Dieu. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. Ici, dans ce verset, on a l'expression d'une colère de Jésus face à la mort. Et Calvin, quand il commente ce texte, dans ses commentaires, il dit que Jésus, quand il est arrivé devant le tombeau, il est entré comme un lutteur dans l'arène pour faire face à son ennemi. Il est entré, le mot qui est utilisé en grec indique un animal qui rugit de colère, comme un taureau qui vient vous foncer dedans quand vous traversez la prairie à l'extérieur de la ville. Ça, c'est la violence dans laquelle Jésus était lorsqu'il a demandé à voir le tombeau. La mort est un ennemi, Paul l'a dit, le dernier ennemi. Et Jésus est en train de l'affronter en face. Et il sait que cette mort qu'il est en train de voir à travers le tombeau de Lazare, ce sera bientôt la sienne, dans quelques jours. Et on comprend que la colère soit aussi motivée par une certaine crainte et d'angoisse qui va le saisir quand il sera dans le jardin de Gethsémané. Il sait que la victoire qu'il est sur le point de remporter n'est possible que dans la perspective de sa propre mort qui se profile à l'horizon. La mort de Lazare n'est en fait qu'une préfiguration de la mort qu'il est sur le point de vivre dans les jours qui vont suivre. Et c'est pourquoi tout son être est engagé dans ce combat. Parce que si Jésus n'était pas prêt à aller sur la croix, le miracle de la résurrection de Lazare était une espèce de farce. La mort de Jésus était nécessaire pour que celle de Lazare puisse être faite et vécue comme il le fera ici. Jésus est en guerre contre la mort. Mais la mort se manifeste par une odeur. Lorsqu'il demande de rouler la pierre, on voit que Marthe dit « Mais il sent déjà ». L'odeur de mort, c'est bien sûr une odeur que personne ne voudrait ressentir, mais c'est un climat qui s'impose à nous parfois, quand on vit justement dans l'incrédulité, quand on vit dans l'absence de Dieu. et que c'est la mort qui règne. C'est vrai que ben, Gilles est allé à un enterrement cette semaine, il sait bien de quoi il a vécu. On est tous ébahis devant la mort. On n'a rien à dire. La mort nous touche de près ou de loin, mais souvent de près. Et tout le monde est silencieux. Mais en plus, lorsqu'elle est qualifiée de... Enfin, qu'elle a un teint spirituel, eh bien, elle implique quelque chose de néfaste, comme une mauvaise odeur. D'ailleurs, Paul reprendra cette idée, cette odeur de mort, pour ceux qui ne sont pas, qui n'acceptent pas l'Évangile. Mais Jésus est prêt à affronter cette odeur. Et il dit, ôtez la pierre. Jésus n'écoute plus les critiques de ceux qui cherchent à le faire croire qu'il n'est pas capable de ressusciter un homme, même s'il est capable de guérir. Et quand il se trouve devant le tombeau ouvert, il fait la chose que, je pense, nous devrions tous faire lorsque nous sommes dans une situation de conflit et de tension comme il l'est à ce moment-là. Il prie. Il prie. La prière est le meilleur réflexe quand on est en situation de combat. Mais ici, la prière, comme on l'a lu, est une prière non pas d'intercession, mais de reconnaissance. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient. Et là, ce sont les Juifs. Ce ne sont plus ni les disciples, ni Marthe et Marie. J'ai parlé afin qu'ils croient. Que c'est toi qui m'as envoyé. Que c'est toi qui m'as envoyé. Le but de Jésus à travers ce miracle merveilleux, c'est de convaincre ceux qui étaient là, les Juifs en particulier, qu'il est le prophète, celui qui était envoyé par Dieu, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et après, la colère et la violence du combat se fait ressentir lorsqu'il crie « Lazare, sors !» Là, il y a de la violence. Il y a des gens qui disent que Jésus était non-violent. Oui, mais pas là. Pas là. Jésus est très violent. Violent dans son attitude par rapport à la mort. Sors ! Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà l'histoire d'un combat que Jésus a mené avant que son combat ultime face à sa propre mort. Il a affronté la mort à travers le décès d'un de ses amis. Et il a utilisé cette circonstance pour manifester, bien sûr, comme il le dit au début de ce texte, sa gloire. Pour manifester la gloire de Dieu et la gloire du Fils qui resplendit à travers l'œuvre du Père. Et il est dit au verset 45, « Plusieurs des Juifs venus chez Marie, qui avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. » Crurent en lui. Voilà l'objectif que Jésus a poursuivi. Et ils ont tellement cru en lui que les pharisiens étaient encore plus convaincus qu'il fallait vraiment prendre une décision radicale par rapport à Jésus et qu'il était temps de le tuer. Et c'est d'ailleurs ce qui va se produire quelques jours plus tard. Ce passage vraiment est formidable, mais je retire à travers cette petite lecture et ces méditations le fait que Jésus, attend de lui que nous faisions confiance en lui, à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la confession de foi orthodoxe de Marthe ne suffit pas. Jésus n'est pas un modèle à suivre. Jésus n'est pas un intercesseur performant, n'est pas un altruiste illuminé, un guérisseur hors norme. Non, il est la résurrection et la vie. C'est ça que nous devons croire aujourd'hui. Croyons-nous cela? Grande question que Jésus a posée à Marthe et à laquelle nous devons répondre aujourd'hui. Croyons-nous que Jésus est ce Jésus-là? Jésus a dit « Je suis le Messie », il a dit « Je suis le pain de vie », il a dit « Je suis la lumière du monde », il a dit « Je suis le bon berger ». Et il termine à travers ce septième signe « Je suis la résurrection et la vie ». C'est lui qui est capable de donner la vie à nos corps morts. Et nous savons qu'avant notre conversion, nous étions morts, comme dit Paul aux Éphésiens. Et c'est lui qui peut nous ressusciter à travers son action d'intervention par le Saint-Esprit. Une vie qui nous libère non seulement de la culpabilité devant Dieu, mais surtout de l'esclavage du mal et du péché qui nous maintenait dans un état de mort spirituelle. Jésus veut que nous sachions ça. Il veut que nous le sachions et c'est pour ça qu'il fait cette démonstration en live. En live. Pour Marthe, on n'a pas la suite de l'histoire, mais on voit, si, on a la suite de l'histoire parce que nous savons que Marie va, quelques jours plus tard, déverser une fortune de parfums sur les pieds de Jésus, en forme de reconnaissance, bien sûr, pour ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu, et combien cette réalité de la puissance de Jésus à travers la résurrection de son frère a dû la marquer. C'est cette foi simple dans ce Jésus capable de nous tenir, de nous faire ressusciter des morts, qui a permis à des millions d'hommes et de femmes à travers l'histoire de mourir en paix face à la persécution, face à la mort. Vous savez, dans Apocalypse, au chapitre 12, il est dit « Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage » et parce qu'ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas craint la mort. La mort n'est plus un sujet de crainte pour celui qui croit que Jésus est la résurrection et la vie. Et c'est tellement important. Parce que nous savons que ceux qui sont autour de nous, même s'ils ne le disent pas clairement, ils ont l'angoisse face à la mort. Gilles me racontait tout à l'heure que son beau-frère, qui pendant toute sa vie ne voulait rien entendre de l'Évangile, cette semaine, il a ouvert son cœur. Il a fallu qu'il soit devant l'échéance. Mais c'est ça. C'est ça qui fait que nous sommes libres, parce que la mort n'a plus d'impact sur nous. Si je crois que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Ça, c'est la délivrance, vraiment. La deuxième chose que je vois dans ce texte, que j'apprends et que je me rappelle, c'est que l'épreuve fait partie du projet de Dieu pour qu'il se glorifie. L'épreuve de la foi fait partie du projet. Marthe et Marie ont dû connaître le deuil pour mieux saisir qui était Jésus. Elles ont dû vivre la séparation, la douleur de la séparation de leur frère, pour mieux comprendre qui était Jésus, mieux saisir qui il était. Et je pense que pour nous, on doit être prêt à vivre des épreuves qui nous permettront de mieux connaître Jésus. Abraham, quand il s'est trouvé devant le sacrifice de son propre fils, il est dit qu'il est allé jusqu'au bout, mais parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter son propre fils. Mais c'était une épreuve. Et d'ailleurs, le texte de Genèse 22 dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». Et donc, c'est vrai qu'on a besoin, nous devons être prêts à vivre ces épreuves dans la foi, en sachant que Dieu va se révéler encore plus clairement à moi et à vous. Amen.